instance de l'État pour retravailler à partir de là. Par contre, ce que j'observe entre, on va dire, une forme d'étatisme qui embrasse plus que l'État, d'ailleurs, on va dire, les actions du gouvernement, ce qui n'est pas la même chose, gouvernement, État, et une sorte de position, des positions multiples anti-État. Quand on rentre un petit peu dans le détail, ben on se rend compte aujourd'hui qu'il y a presque un... C'est un sujet, d'ailleurs, ce matin, un décrochage entre les perspectives de l'État et notamment les perspectives même gouvernementales, pour le dire très plus clairement. Et puis ce que vivent en fait des territoires. Et là, les institutions sont multiples, hein, j'allais dire, elles sont plus ou moins institutionnelles, enfin, elles sont plus ou moins fortes, avec une irruption de l'Anthropocène, du franchissement en cours des lignes planétaires, peu importe, qui oblige en fait à réimaginer des modes de fonctionnement complètement différents, avec évidemment parfois des apports d'acteurs qui sont en dehors de ce jeu institutionnel. Mais il ne faut pas, je pense, sous-estimer à quel point, d'une part, notamment les collectivités sont maltraitées par l'État, à quel point elles sont les premières à faire face aux conséquences du changement climatique et de tout ce qui est associé. Quand on parle de la neige qui fond, des inondations, du recul du trait de côte, avec tout ce côté justement crise et gestion immédiate de la crise. Donc ce sont les premières qui sont concernées et il y a un enjeu peut-être à montrer que ce sont des acteurs qui demain vont devoir d'une manière ou d'une autre un petit peu faire défection parce que le sort qui leur est réservé et les règles du jeu qui existent aujourd'hui vont être intenables. Et donc arriver à, j'allais dire, à faire déserter des acteurs institutionnels, ça peut être intéressant aussi.
T'as parlé d'hériter de l'État, du coup ça m'avait pensé, c'est vrai que j'avais jamais pensé l'État comme un commun positif ou négatif, je ne sais pas. Enfin, si, j'ai ma petite idée, mais... en tout cas, voilà, tu as beaucoup parlé aussi de... Tu voulais rebondir
là-dessus. Oui, non, c'est vraiment intéressant parce que c'était Frédéric Lordon qui avait engagé une discussion dans son livre « Vivre sans » avec toutes les approches destituantes, façon comité invisible, Agamben, etc. Et il disait, en fait... Alors lui, il a une position consistant à dire, de toute façon, on produit de l'institution très vite. Même les groupes radicaux reproduisent de l'institution. Et le commun, c'est une manière de reproduire de l'institution, parfois du droit, de manière ascendante. On n'en sort pas forcément, mais par contre, on sort de certaines institutions pour aller vers d'autres. Et il disait, bon, en fait, les institutions, c'est la merde, mais on ne peut pas s'en passer. Et je dirais, il faut aller encore peut-être plus loin que ça. Si on dit les institutions, c'est la merde, ça veut dire c'est des communs négatifs, mais des communs négatifs, en l'occurrence, dont on ne peut pas vraiment se passer. Mais ça veut dire, par contre... comment on factorise le fait que c'est la merde et qu'on ne peut pas s'en passer. Quels garde-fous on met en place, quels éléments on met en place, parce qu'on sait que ça va sans doute mal se passer, mais que l'accent doit être mis justement sur le fait d'éviter un petit peu ces déviations, mais qui font partie des dynamiques internes aux institutions. Donc, si on le sait, ça amène à un positionnement complètement différent, effectivement, par rapport à l'institution en question, et peut-être que c'est aussi de ça dont on a besoin aujourd'hui.
Et c'est vrai que quand on parle de démantèlement, on pense aussi au sabotage, par exemple. Voilà la façon dont on peut directement démanteler. Alors, c'est toujours très limité, en fait, hein, ce qu'on fait, ce qu'on peut faire en tant que militant ou militante. Mais est-ce que ça, c'est quelque chose voilà, qu'est-ce que tu en penses de cette façon de démanteler ?
Oui, bah, c'est forcément une question qui se pose avec les enjeux de désarmement. Alors, c'est une question qui est pas simple. Moi, j'allais dire... Alors, ma position, elle est un peu particulière aussi. Hein, je suis enseignant-chercheur, j'ai une pratique très concrète, mais je ne suis pas dans le sabotage au quotidien. Donc, à la fois, je donne pas de leçons là-dessus. Ma position située, c'est effectivement... Moi, je favorise une espèce de démantèlement qui peut être, on va dire... plus brutal quand on démantèle pas quelque chose qui existe déjà. C'est-à-dire quand on démantèle des projets, je pense qu'effectivement, si par exemple c'est des projets qui ont été imaginés par des ingénieurs, des concepteurs, etc., etc., c'est pas très grave si on les démantèle de façon un petit peu affirmée, parce que derrière il n'y a pas d'héritage matériel, donc on peut se permettre d'aller loin. Mais plus il y a de l'existant en dur et plus il y a des dépendances à cet existant, plus effectivement pour moi c'est un peu compliqué. Et en même temps je comprends la force symbolique aussi du sabotage qu'elle peut représenter, qu'elle peut constituer. Mais c'est vrai qu'elle va plutôt attaquer finalement un objet et pas forcément une lignée technologique d'une certaine façon. C'est comme si on sabotait mon smartphone plutôt que d'arriver à une réflexion sur comment est-ce qu'on interrompt la lignée technologique qui est le smartphone en reconnaissant que bah, ces milliards de smartphones qui durent 2 ans en moyenne, c'est pas possible. Et c'est encore un autre processus de pensée. Mais donc voilà, c'est des cas de figure qui sont différents. Et je comprends tout à fait dans le rapport aux institutions, à l'État, à un moment donné, il fallait poser quelque chose. Mais c'est vrai que il y a une difficulté parfois pour moi qui est que donc ça, je comprends tout à fait. Mais là où il y a une difficulté, c'est qu'on peut se dire aussi que les gens qui vont saboter ne seront pas toujours 100% alignés avec ce qu'on souhaite. C'est-à-dire qu'en général, on a en tête, les gens sabotent parce qu'ils ont vu la non-viabilité de tel ou tel projet, telle ou telle infrastructure, et donc on comprend leurs raisons, mais aussi des gens qui peuvent saboter avec de tout autre raison. Et souvent, l'extrême droite copiant ce que fait l'extrême gauche à quelques années de distance, on peut imaginer que demain, il y a aussi des groupes d'extrême droite qui se mettent à saboter, et pas forcément les cibles qu'on aurait voulu. Donc c'est là où ça peut être effectivement un peu compliqué, mais c'est normal que ce soit des sujets assez, assez touchy. Donc à la fin, je pense qu'il y a aussi des questions qui sont des questions... stratégique. On l'a vu, hein, certains sabotages de méga-bassines, ben, ça passait bien. Et puis sur le muguet, tout de suite, c'est moins bien passé. Donc c'est ça aussi. Qu'est-ce qu'on décide, selon quels critères, à quelles conditions, ne sont pas des questions et des enjeux simples.
Et tout ce démantèlement, cette fermeture, est-ce que c'est possible? C'est-à-dire qu'on voit bien que, si je prends l'exemple de la 69, c'est un projet qui est quand même très très contesté, où il y a des scientifiques qui se sont mobilisés, et pourtant on voit qu'il y a une résistance très très forte de l'autre côté, y compris d'ailleurs de collectivités, enfin en tout cas de certains élus locaux. Donc on a du mal à imaginer que le capitalisme va se laisser démanteler, que les pouvoirs publics qui sont, en ce qui concerne les élus locaux par exemple, dans des logiques d'attractivité du territoire, etc., abandonne tout ça.
Et ça arrive pourtant qu'il y a un enjeu quand ça arrive à essayer de le monter en épingle, mais d'en faire un précédent qui puisse ensuite passer à l'échelle. Après, j'entends tout à fait la question. Sur l'exemple de l'autoroute, on ne sait pas comment l'histoire va se terminer. Hein. Déjà, on ne sait même pas s'il y aura des JO l'an prochain. Enfin, il y a plein de choses qu'on ne sait pas aujourd'hui. Moi, il me semble qu'un grand acteur qui finance des projets publics avec notre épargne n'a pas financé cette autoroute. Donc déjà... C'est un signal.
Un grand acteur qui n'est pas... Je cherche.
Un acteur qui s'occupe de l'investissement public. Mon petit doigt me dit qu'il n'a pas financé ce projet-là, qu'il a dû considérer que ce n'était pas forcément une bonne idée. Donc ça, c'est un signal en soi qui est intéressant. C'est vrai qu'on peut se dire que le capitaliste ne laissera pas faire. D'un autre côté, mon exemple de l'eau là, dans le Var, en fait, tous les enjeux d'attractivité, tous les modèles depuis 60 ans ou plus qui consistent à faire venir de la population, en fait, s'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau et ces modèles deviennent caduques, en fait, deviennent obsolètes. Il faut trouver des alternatives et on va être de plus en plus confronté à des situations qui font qu'en fait, ces modèles-là, dont on n'imagine pas pouvoir sortir, en fait, avec des raisons beaucoup plus fortes, nous obligent finalement à les mettre de côté et à expérimenter des façons de faire complètement différentes. Et puis même à des niveaux nationaux, parce que là, je suis sur des échelles, on va dire méso, l'échelle du territoire, c'est pas la micro-échelle du petit collectif ou l'échelle nationale, c'est un peu entre les deux. Mais il y a des exemples, et je reviens sur un de ces exemples dans mon livre, c'est l'exemple de la crise de l'azote aux Pays-Bas. On peut dire très vite, hein, Pays-Bas, c'est le deuxième exportateur agricole au monde après les États-Unis, mais pour une superficie de 0,42% du territoire américain. Donc on imagine que le type d'agriculture qui est développée est légèrement intensive. Pays-Bas ont mis en place un permis de polluer vers 2015. Il a été retoqué. Alors, c'est intéressant parce qu'il a été retoqué par des acteurs de la société civile qui l'ont attaqué en justice, à savoir une ONG environnementale et une fondation de défense locale de la biodiversité. C'est remonté au Conseil d'État, l'équivalent du Conseil d'État des Pays-Bas, la Cour de justice européenne, et ce mécanisme a été retoqué. Et derrière, toutes les activités qui dépendaient de ce mécanisme se sont interrompues, littéralement, et le pays a commencé à travailler sur un plan pour limiter ces rejets d'azote dans l'atmosphère ou dans les sols, hein, notamment. Il y a plein d'activités en fait, qui sont émettrices d'azote, pas que les activités agricoles. Comme les zones Natura 2000 étaient touchées, en fait, c'est ça qui a été un peu le déclencheur. Donc, c'est quand même l'Europe. C'est intéressant parce que là, on est passé par des institutions pour complètement renverser en fait, la trajectoire d'un pays, avec un effort minimum au départ en termes de dureté, on va dire, passant par le droit, etc. Et puis en fait, derrière, ça a complètement explosé la trajectoire des Pays-Bas. Et le pays a annoncé son plan qui a été mis en élaboré entre 2019 et 2022, qu'à l'avenir, notamment pour ce qui concerne le monde agricole, mais je ne vais pas égrainer toutes les mesures ici, il y aurait une réduction de 30 à 50% du cheptel. Alors, si on annonçait ça en Bretagne, qu'est-ce qui se passerait demain? Comment les acteurs syndicaux réagiraient? Mais aussi une expropriation de 30% des exploitations agricoles et une transformation profonde d'exploitation intensive en exploitation extensive de 30 autres%. Donc 60% qui sont soit expropriés, soit complètement transformés de fond en comble. Donc, et d'ici 2030. Ça, c'est des mesures vraiment incroyables. Et effectivement, on aurait pu se dire, mais le capitalisme ne laissera pas faire, les industriels ne laisseront pas faire. Alors, ils ne laissent pas complètement faire parce que, comme ça a eu lieu, j'ai dit 2019, 2020, on est en plein début de la crise Covid, donc il y a eu une sorte de convergence avec les mouvements conspirationnistes, on pourrait même conspiracistes, c'est l'expression anglaise, mais je trouve qu'elle est bien en français aussi. Et notamment le narratif qui a circulé, le récit qui a circulé aux Pays-Bas, c'est de dire il n'y a pas de crise de l'azote. La crise de l'azote, c'est le Great Reset. Le Great Reset, c'est un grand emplacement. Et en fait, on est en train d'exproprier les vrais habitants des Pays-Bas, ceux qui cultivent la terre, parce que non, la terre appartient à ceux qui la cultivent, pour les remplacer, en fait, leurs exploitations par des immeubles d'habitation dans lesquels on va loger des migrants. Et voilà, ça, la boucle est bouclée. Et on voit ici, effectivement, alors, sans doute les capitalistes, les industriels ont injecté de l'argent pour favoriser ce type de narratif, en tout cas ce que font remonter des journalistes aux Pays-Bas. Mais justement, parce qu'en fait, c'est quand même des mesures qui sont prises et qui vont à l'encontre d'une activité stratégique pour ce pays, des intérêts des capitalistes locaux. Et on pourrait se dire, c'est pas possible. Et d'ailleurs, c'est peut-être parce qu'on n'arrive pas à y croire qu'on étudie très peu cet exemple-là en France, parce qu'on comprend pas. En fait, c'est pas nos coordonnées. Et d'ailleurs, la réaction que moi j'ai souvent, c'est de dire, mais pourquoi l'État néerlandais fait ça? Et en fait, ma réponse, c'est, c'est extraordinaire, mais là, on a un État qui écoute son Conseil constitutionnel, écoute l'Europe et en fait suit les lois. Alors, je sais qu'en France, c'est exceptionnel d'imaginer un État qui suit la loi, qui a lui-même édicté, mais en fait, ça arrive parfois. Et ce type de cas de figure risque d'arriver de plus en plus avec finalement des redirections à marche forcée, donc extrêmement brutales, ce qui est reconnu par les autorités, avec derrière des réactions extrêmement, extrêmement vives. Et aujourd'hui, le premier parti aux Pays-Bas, en tout cas aux dernières élections provinciales, mais je crois que ça se confirme un petit peu, c'est un parti populiste de défense des intérêts des éleveurs et agriculteurs, voilà, mais pas forcément avec les meilleures intentions. Donc ça veut dire que c'est toute la trajectoire même politique de ce pays-là qui a été bouleversée, aussi parce que le pays a attendu avant d'agir et avant de procéder à un renoncement qu'il pouvait voir venir, parce qu'en fait cette crise de l'azote, c'est pas une crise, parce qu'en fait c'est lié à un mode de fonctionnement endémique, c'est pas un événement ponctuel. Voilà, donc on s'expose aussi à ce genre de déconvenues si on attend trop, si on ne prend pas ce type de mesures.
Oui, c'est ce que tu dis, ça doit être démocratique et anticipé, et moins c'est anticipé et moins c'est démocratique.
Exactement. On observe des arbitrages de par le monde qui peuvent être liés à des renoncements, à des démantèlements, etc., qui sont pris, mais rarement, effectivement, de manière démocratique. Alors, souvent, on s'entend dire que c'est aussi parce que l'urgence climatique au sens large est incompatible, d'une certaine manière, avec le temps de la démocratie, le temps de la délibération, etc., etc. Plus que de la délibération, d'ailleurs, je dirais le temps de l'enquête, tout simplement. Et ça, je ne crois pas du tout, parce que si on a une acception différente de la démocratie, où finalement les alertes et les demandes d'accélérer issues de la société civile, c'est aussi une émanation de la vie démocratique, alors il n'y a pas un retard de la démocratie par rapport aux décisions prises par l'État, le gouvernement, la technostructure. J'ai plus confiance en la technostructure que dans les gouvernements, parce qu'il y a des enjeux beaucoup plus tangibles, métiers, etc., etc. Et bien voilà, ça va être compliqué. Donc oui. En fait, l'alerte, elle est là, la demande d'agir et d'accélérer, elle est là. Il n'y a pas de retard démocratique de ce point de vue.
Et il y a une place importante que tu donnes aux travailleurs dans tous ces processus, travailleurs et travailleuses dans ces processus de fermeture, démantèlement.
Oui, tout à fait. Pour moi, c'est un élément fondamental. On a vu il y a un an et demi à peu près, dans des gestes forts, de désertion de jeunes diplômés. Et eux, issus souvent de grandes écoles d'ingénieurs, mais pas seulement, hein, ça pouvait y avoir aussi d'ailleurs dans des écoles de management, des écoles d'architecture et j'en passe, des gestes comme ça d'appel à désertion ou de désertion, ce qui est très bien. Qui est plus compliqué parfois quand on ne factorise pas que c'est des gens qui ont les moyens de déserter et que d'autres n'ont pas forcément les mêmes moyens physiques ou sociaux, etc. Mais ça n'aide pas forcément ou indirectement les 30 millions d'actives et d'actifs qui en fait n'ont pas forcément cette possibilité-là de déserter. Et donc qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là ? Est-ce qu'ils et elles sont perdus et puis il y a une jeune avant-garde qui va les remplacer et puis on attend qu'ils et elles meurent et puis on passe à cette avant-garde ? Je ne pense pas que ce soit envisageable. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à répondre à ces problématiques depuis le travail, qui est quand même un lieu où on gagne notre pitance, de socialisation, on développe aussi des savoirs, des savoir-faire, où parfois, justement, dans son travail, on contribue à la dégradation de l'environnement, donc on peut être dans toutes ces contradictions qui émergent. Et donc, un petit peu à l'instar de revendications, par exemple, d'ouvriers sur les plateformes de raffinage qu'on a entendues en début d'année à l'heure du mouvement social contre la réforme des retraites, on entendait des revendications avec des ouvriers qui demandaient, en fait, à non pas maintenir l'activité qui est la leur, parce qu'ils voient bien que cette activité n'est pas viable, mais à participer d'une part à son démantèlement, à partir justement de leur savoir, de leur savoir-faire, leur connaissance de l'outil de production, donc le rediriger, quitte à le fermer, et derrière peut-être à en hériter d'une autre manière, à hériter à la fois de l'outil de production, de ce qu'il en reste, mais aussi de leur savoir et de leur savoir-faire. Je dis savoir-savoir-faire et pas compétences, parce que je pense que les savoirs et savoir-faire sont collectifs d'emblée, c'est important, ce n'est pas des compétences ultra-individuelles qui sont en jeu ici, et à remobiliser tout ça pour peut-être remanteler, après avoir démantelé, remanteler un nouveau système énergétique en France. Et effectivement, ce matin, on parlait de personnes qui sont des artistes de la neige, des damiers, comme ça, avec leurs machines, qui rendent tout ça lisse et tout ça. Et puis Olivier Hérard disait, ces gens-là, peut-être, pourraient intervenir sur des tourbières. On a besoin de gens qui font ce travail-là. Donc, comment est-ce qu'on peut imaginer une transformation de l'activité, une bifurcation de l'activité, soit pour la fermer et imaginer faire autre chose derrière, soit la rediriger et ne plus produire ce qu'on produisait jusqu'à maintenant, mais produire autre chose, produire autrement et plus en adéquation avec le monde qu'on imagine être le monde de demain. Et donc comment les travailleurs et travailleuses finalement peuvent être au cœur, doivent être au cœur en fait des enjeux de la redirection écologique, puisque dans tous les secteurs, dans toutes les organisations, ces questions-là se posent. Et donc, il faut absolument qu'on les outille, qu'on outille aussi les syndicats, différents acteurs, pour justement qu'on organise ces transformations, ces bifurcations, parfois aussi ces réappropriations peut-être ouvrières de l'appareil de production, ce qui est demandé. Hein. Puis il y a une tradition autour de tout ça qui est peut-être plus que jamais pertinente aujourd'hui. Et donc, on est partie prenante depuis quelques mois maintenant d'un projet qui est un projet de sécurité sociale, de la redirection écologique. Alors, ce n'est pas rediriger la sécurité sociale, mais c'est avoir une sécurité sociale pour opérer une redirection écologique de son travail, de son activité, avec notamment le réseau Salariat, l'Institut Rousseau, Point Éveil écologique, Printemps écologique, et d'autres acteurs. Je ne peux pas forcément encore citer, mais notamment peut-être des plus gros syndicats qui sont intéressés aussi à contribuer à ce projet-là, pour que eh bien on puisse faire finalement des travailleurs et travailleuses, qui ne sont pas toutes et tous salariés d'ailleurs, vraiment les acteurs qui sont en première ligne sur ces chantiers de redirection écologique, pour se reposer finalement démocratiquement à l'intérieur de toutes les organisations la question de ce que nous produisons. Donc c'est pas comme chez Latour à la fin de sa vie, sortir de la production, que ça, je pense que c'est un peu compliqué et ça mériterait des commentaires. C'est plutôt comment est-ce qu'on peut se réapproprier collectivement à l'échelle des organisations ces enjeux de production pour rediriger justement ce qui est produit et la manière dont c'est produit. Et je pense que c'est vraiment le cœur des batailles à mener.
On parlait tout à l'heure des attachements, et tu l'avais dit au départ, hein, quand tu as parlé de corps sain, et donc il y a des personnes qui dépendent beaucoup plus de certaines technologies pour leur vie, et donc ça c'est un point qui est important aussi dans les questions de fermeture, démantèlement.
Exactement, l'idée c'était pas de faire de la fermeture une sorte de geste viriliste pour dire vous allez voir ce que vous allez voir, on va vous épater un peu par une forme de radicalité, il faut tout fermer. Je l'indiquais, il y a un peu déjà des positions autour de ça, anti-tech, anti-indus, anti-civ, etc. Moi, je suis pas du tout là-dedans. Je rejoins d'ailleurs Andreas Malm qui avait posé cette question dans c'est comment saboter un pipeline, où il disait, à l'instar de DGR, hein, qui imagine revenir,
Deep Green Resistance.
Voilà, Deep Green Resistance, pas faire de la pub, mais qui imagine en fait, que le souci, c'est pas le souci de l'humain, mais c'est le souci de l'humain civilisé qui détruit son environnement. Et donc, comment on peut revenir en deçà de la civilisation ? Il y a déjà des populations qui sont dites non civilisées, parce qu'ils demanderaient quand même aussi des commentaires sur ce que ça veut dire vraiment. Mais elles sont 500 millions, 600 millions. Et en fait, lui pose la question, qui est, je pense, en fait, la question derrière l'objectif de DGR, c'est-à-dire est-ce qu'il faut revenir à 500 millions, 600 millions de personnes sur Terre, et à quelles conditions s'opère une destruction malthusienne de 7,5 milliards d'habitantes et d'habitants. Et moi, comme je ne suis pas sur une option ultra-malthusienne comme, comme celle-là, il me semble qu'on est condamné de toute manière à trouver d'autres voies où effectivement sortir intégralement de la technologie, des infrastructures et qui ne concerne pas, et là il faut aussi faire un effort de comprendre le monde dans lequel on vit, au-delà même du colonialisme et de ses conséquences. En fait, les technologies aujourd'hui, elles sont autant au sud qu'au nord. On n'est plus les seuls producteurs de technologies, de matérialité. En fait, c'est plutôt dans d'autres pays que tout ça est produit aujourd'hui. Donc c'est des réalités qui concernent aussi beaucoup d'autres pays, et pas seulement du point de vue de l'exportation vers le nord, etc. Parce qu'il y a une sorte d'occidentalocentrisme dans une certaine pensée décoloniale, où on remet quand même l'Occident au centre, alors qu'en fait, il est au centre de certaines choses, mais pas de tout. Il faut aussi qu'on arrive à composer avec ces visions-là, et de penser qu'il y a aussi de la technique dans le sud global, les suds globaux. Et donc, on ne peut pas sortir d'un coup d'un seul de toutes ces dépendances, de ces infrastructures, de ces technologies. À 8 milliards, de toute manière, ça n'est pas envisageable, avec les chaînes de logistique qui sont les nôtres, etc. etc. Et en même temps, c'est vrai, on ne peut pas du tout maintenir l'existant en l'état ou le laisser grossir, maintenir la technosphère, comme on l'appelle, ou la laisser grossir, parce que ça détruit les conditions d'habitabilité sur Terre. Donc toute la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à trouver une sorte de ligne de crête entre les deux, et effectivement à ménager aussi une place là-dedans pour les personnes, les corps qui ont des dépendances spécifiques aux infrastructures de soins médicales ou autres, les personnes en situation de handicap en particulier. Alors, il y a des collectifs justement anti-civ ou autres qui, alors là, pour le coup, se préoccupent clairement pas de ces personnes-là, parce qu'ils considèrent que cette dépendance, finalement, à la technologie, c'est porter avec soi une dépendance à la civilisation, et donc c'est tout ce qu'il faut combattre. Sauf que c'est peut-être aussi, malgré tout, un acquis, parce que moi, je suis pas en lutte ontologique contre la modernité, ça c'est un point que je précise, c'est peut-être aussi un acquis que d'avoir aussi développé des dispositifs pour ces personnes-là, peut-être d'ailleurs de les repenser demain, parce qu'on n'aura pas forcément exactement les mêmes moyens, etc., mais de ne pas revenir intégralement sur le soin à ces personnes, à ces corps qui sont différents, et en tout cas ne pas faire de la fermeture et du démantèlement quelque chose qui viendrait d'abord menacer des populations déjà fragilisées, alors que c'est évidemment pas le but. Et donc aussi mon travail avec Politiser le renoncement, ça a été de bien préciser ce point-là, donc d'affirmer les enjeux de fermeture, de démantèlement avec mes collègues dans l'ouvrage précédent, mais aussi d'indiquer, une fois qu'on rentre dans le dur et dans le côté un peu pratique des choses, les écueils qu'on souhaite éviter, et le validisme ici, mais il y a d'autres tendances très délétères, est clairement un écueil que moi j'entends éviter, et ça c'est vu aussi avec la crise Covid, très concrètement, hein, où D'un côté, on avait quand même toute une extrême gauche qui était mobilisée par la pensée d'Agamben, l'étoile jaune pour les personnes refusant de se faire vacciner et ce autre joyeuseté, en réaffirmant qu'il y avait des gens qui avaient peur de mourir, que c'était scandaleux parce qu'il fallait accepter que la mort fait partie de la vie, et puis tant pis, une espèce que certains ont appelé d'eugénisme réactionnaire, je pense que collectif comme Cabriole, qui a fait un travail, je pense, absolument fondamental à ce moment-là, alors même que pendant ce temps-là, les personnes justement jugées moins viables que d'autres étaient triées dans les hôpitaux, et où en fait on ne se souciait pas du tout de les maintenir en vie, contrairement à ce que les autres affirmaient. Donc voilà, on a aussi vécu une période qui a été compliqué, qui moi m'a aussi beaucoup marqué, et donc cette espèce de validisme, de vitalisme, d'eugénisme réactionnaire, je ne veux pas du tout que la pensée du démantèlement et de la fermeture que je porte en soit un soutien, mais qu'au contraire elle soit clairement en opposition à ces tendances délétères.
Merci Alexandre Monin. Je rappelle que tu es enseignant-chercheur et que ton dernier livre s'appelle Politiser le renoncement aux éditions Divergence.
Merci beaucoup.
C'était le premier épisode de la deuxième saison du Monde d'après. On va essayer d'être un peu plus régulier pour la suite. Merci à Kyo pour la musique. À bientôt.
Les sanglots longs des rivières poitevines. Je répète, les sanglots longs des rivières poitevines blessent mon cœur d'un assec d'automne. Méga radio, une radio éphémère de lutte et de résistance contre les méga bassines.
Échappé, tout en combiné blanc, je passe impunément, je ne prends pas de gants. Je repars tranquillement,
c'est du propre.
Rien à déclarer, rien à déclarer, j'ai rien à déclarer. Rien à déclarer, rien à déclarer, j'ai rien à déclarer. Oh, t'as un beau numéro dans le dos, preuve que t'es rien qu'un robot. T'as des gros muscles, une grosse matraque, mais quand il s'agit de répondre, t'as le trac. Doucement, 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 pourquoi tu prends à moi ton LBD? Je n'ai rien dit encore pour t'offenser, mais la chanson ne fait que commencer. Tu sors les barrières, on va faire un carton.
Chacun son rôle,
moi je suis resté fier. Tu protèges tes fions. Allô, je sais que t'es au bout du fil. T'es vendé comme mantel, c'est que tu me déprimes. Mais te fais pas de deal, je t'affronte pas, je te mime. On joue pas dans la même ligne. Toi, tu appliques la loi, mais nous, on change les lois. Vous voulez aider les gens? Vous voulez sauver des gens? Vous connaissez la musique? Ça fait cette bonne raison de se passer de 40 heures que je suis encerclé de bleu.
La gaffe c'est la hesse.
J'ai rien à déclarer, rien à déclarer. Tu poses tes questions mais j'ai rien à déclarer. C'est pas tes mensonges qui vont me faire te parler. Je sais ce que tu veux, c'est m'auto-incriminer. Tu m'as mis la presse et j'ai refusé de comparer. Le broc là dans l'os immédiat c'est ta défaite. Le combat c'est ma raison d'être, tant qu'il y a le courage et la fête. Pas ta visière en plexiglas qui permettra de te voiler la face. Rappelle-toi chaque jour qui passe, c'est une belle journée pour arrêter d'être flic. C'est quand t'es dans la merde jusqu'au cou qu'il faut garder la tête haute.
Ah, pourquoi ?
Pour mes enfants, mais surtout mes petits-enfants.
Les vieux, ils ont besoin d'être là aussi. Pas que les jeunes.
Parce que ça a du sens, j'ai l'impression, parce que
la société pourrait quand même s'inspirer un peu de la créativité qu'il y a là. Ouais.
L'impression que j'ai même pas vraiment réfléchi, quoi. Je me sentais appelée.
Aussi besoin de toute cette base arrière, c'est hyper important.
Puis l'envie de découvrir la diversité des gens qui sont touchés par ces mêmes choses.
Enfin voilà, tout un camp auto-géré qui est... Enfin, c'est une intelligence collective et je trouve que c'est plein d'énergie et c'est ressourçant aussi. Voilà.
C'est pour cela qu'on est là.
J'ai beaucoup hésité, j'avais envie d'être le genre de personne qui y va. Et puis j'ai fini par accepter qu'en fait j'avais pas sincèrement envie d'y aller. J'ai beaucoup de respect et de gratitude pour les personnes qui y vont, mais moi, mon système nerveux, il a pas trop envie de vivre ça.
C'est pour cela qu'on est là.
Ici, tout le monde peut trouver une place.
Tu vois, nous à 70 ans, je pourrais faire autre chose. Hein. Mm. Mais je serais complètement déprimée si je viens pas.
En action, c'est des gens qui ont la frite, qui ont la pêche. Toutes les actions sont bonnes pour la lutte. Hein.
Bonjour Léa.
Bonjour.
Tu es journaliste.
Oui, c'est ça.
C'est compliqué d'accéder au village de l'eau en ce mardi matin.
Oui, en effet, c'est un peu compliqué. J'ai eu beaucoup de mal à y accéder. Il a fallu passer par un contrôle, mais en fait, il y a beaucoup de routes qui sont barrées. Donc c'est assez compliqué de s'y retrouver, de savoir comment y accéder, de savoir où se garer. On essaye de se repérer sur la carte, mais c'est vrai que comme beaucoup de routes sont barrées, on est obligé de faire demi-tour un petit peu toutes les deux minutes. Et au niveau des contrôles, pour ma part, on m'a demandé les papiers du véhicule, mon permis évidemment. Et puis on m'a demandé de sortir de la voiture pour ensuite ouvrir mon coffre. Et ensuite, on m'a demandé de re-rentrer dans la voiture. Ils ont aussi checké les sièges arrière. Et ensuite, je suis re-rentrée sur mon siège. Et là, ils ont contrôlé mon sac et ils ont contrôlé mon étui à lunettes et mon
porte-monnaie. Très dangereux, un étui à lunettes. Hein. Lancer très fort, ça peut faire mal. Hein.
Bah, en tout cas, ils m'ont demandé d'ouvrir mon sac. Et c'est vrai qu'ils ont particulièrement vérifié mon étui à lunettes et mon porte-monnaie.
Tu avais annoncé ta qualité de journaliste ?
Après coup, en fait. Je l'ai dit après. Que j'étais journaliste et je leur ai demandé si je pouvais parler au brigadier pour avoir des infos et puis voilà pour l'instant.
T'as une carte de presse, non ?
Oui, c'est ça, j'ai une carte de presse.
Et ça impressionne ou ils disent ah oui, vous êtes journaliste, bigre, non ?
Non, ça faisait pas partie de. Enfin, ils m'ont pas spécialement demandé si j'étais journaliste. D'ailleurs, ils m'ont pas posé vraiment de questions si j'allais sur le village ou pas. Je leur ai dit que j'y allais et que je voulais savoir comment y accéder. Et en fait, ils m'ont dit de prendre une route, de continuer tout droit. Et en fait, à ce niveau-là, la route était bloquée, donc j'ai pas pu non plus y accéder par là. Donc j'ai fini par renoncer et me garer à côté d'un passage et rentrer.
Bon, et te voilà quand même, malgré tout.
C'est ça.
Alors, travaille bien.
Merci beaucoup.
Abalez ta police, abalez ta police, abalez ta police. Le convoi de l'eau de Bordeaux à Mel contre les mégabassines. Reportage sur la journée du 16 juillet pour la Clé des Ondes et Méga Radio. Salut à tous. On est arrivé chez Johanna et Thomas, des pépiniéristes responsables et soucieux de leur environnement. Aujourd'hui, on a roulé 55 km à travers les campagnes. On va revenir sur Eric qui avait un truc à nous dire. Et on écoutera aussi Thomas qui nous présentera sa pépinière, les herbes folles. Il y a Paprika qui nous rappelle comment on était arrivé là, comment on a organisé ce fabuleux convoi de l'eau. Et puis Pascal va nous témoigner des pressions de la coordination rurale. Enfin, Johanna nous rappelle comment la Confédération paysanne subit des baisses de financement parce que l'État a décrété qu'il ne respectait pas les valeurs républicaines. Avant de commencer ce reportage, on doit vous rappeler que dans la soirée du 16 juillet, alors que nous étions en train de nous coucher, notre convoi a été attaqué par un commando pro-bassine. Deux membres ont été blessés, ils nous ont volé deux vélos et des tentes. Notre convoi a été lourdement atteint. Mais il n'a pas perdu sa détermination et nous sommes bien arrivés au village de l'eau, à Mel. Allez, on continue et c'est le dernier reportage du convoi de l'eau Bordeaux-Mel.
Eric, t'as un truc à dire ?
Ouais, j'ai un truc à dire. C'est que, voilà, au-delà de l'aspect, le fait que ça nous dérange tous, qu'il y ait cette surveillance policière et qu'on se sente contrôlé en permanence, il y a cet aspect aussi de dépenses inutiles. C'est-à-dire que c'est de l'argent public de payer tant de fonctionnaires pour contrôler, pour suivre en permanence 24 sur 24 des gens qui n'ont rien à se reprocher et qui ne font rien de mal. Et en fait, tout cet argent, c'est nos impôts, c'est notre argent à nous, c'est l'argent public. Et que ça soit aussi stupidement dépensé, ça me dérange. Moi, je trouve que c'est du gaspillage.
Caille !
Tu peux rappeler le projet de départ et ce que vous produisez ?
Le projet de départ, on est donc la pépinière Les Herbes Folles, c'est Johanna, la discrète là-bas, et moi. On est producteurs de plantes aromatiques médicinales, plantes vivaces. On fait que des plantes qui se mangent. Et donc des plantes dans des serres en godet et des arbres. Et les arbres, on fait ça en racines nues, on fait ça ici. On fait ça sur ce terrain-là où le sol est vraiment très bon. Ça fait 8 ans qu'on a créé la pépinière. Ça fait 4 ans qu'on est à plein temps tous les deux. Et qu'on vit de ça, et qu'on vit très bien, et qu'on est très heureux, et que ça marche. Et qu'on est en agriculture biologique, évidemment. Et voilà, et que dire d'autre ? Le but, c'est pas la quantité, le but, c'est la diversité, le but, c'est se faire plaisir, le but, c'est de diffuser un maximum de variétés différentes, résilientes. Donc on a fait pas mal le tour des conservatoires, des choses pour avoir des... pas forcément des vieilles variétés, même si... en fait, 90% à son vieil, mais on ne se ferme pas à ça. On veut vraiment que de la variété résiliente, solide, qui tient chez nous, qui réside dans nos sols. Et on vend uniquement en local. On n'expédie pas, nous, par la poste. On vend tout à une heure autour de chez nous. Parce qu'on croit à 1 million de petits paysans en France, donc chacun bosse dans son coin. Et du coup, nous, on fait des sols qui sont des arbres qui sont résistants aux sols argilo-calcaires et les plantes aussi. Et les sols argilo-calcaires, c'est très particulier de chez nous, il n'y en a pas partout. Et du coup, chacun fait ses plantes résistantes à ses sols et tout ira très bien. Et Gamber ira très mal. On va avancer un peu. Attention à un charbon.
C'est pas grave.
Du coup, là, il y a un rang de tomates, un rang de choux, poivrons, aubergines, un rang de patates. Donc, on me disait que c'est pas une pépinière, que c'est un potager. En fait, ça rentre dans la rotation pour pas faire arbre sur arbre sur arbre sur arbre. On a 3 lots. Vous avez un lot devant vous, là. Un lot, ça fait 1000 arbres. Il y a 200 mètres linéaires de planches. Vous avez un deuxième lot là-bas, un troisième là-bas. Donc, l'idée, c'est qu'on tourne chaque année. Et là, on est sur le lot qu'on a vendu l'année dernière. Donc, théoriquement, il n'y a pas d'arbres. Comme en pratique, on n'est pas très organisé, en réalité, il en reste toujours. Mais il y en a moins quand même que dans les autres. Et du coup, on profite des planches qui sont amendées, qui sont désherbées, pour faire nos légumes. Comme ça, on a une certaine résilience. Il y a 6-8 mois de l'année, on n'achète pas de légumes. Ça paraît pas comme ça, mais on fait plein aussi d'allium, d'oignons, échalotes. On fait pas mal de patates, en tomates, et enfin tout ça, ça marche bien. Et puis ça nous motive à s'occuper des planches où il n'y a pas d'arbres, en fait. Donc ça rentre dans la rotation de faire des patates douces, il y a devant, là, des choses comme ça. Mais ça, on n'en vend pas. C'est uniquement pour nous, les légumes. C'est pour la rotation. Et après, on va avancer du coup dans les autres lots, on va voir plutôt les arbres.
Mais ils ont l'air vachement serrés quand même, les arbres là.
Ouais, c'est le principe un peu de la pépinière. Du coup, on joue sur ce côté-là.
Ah, mais oui, vous les vendez, les arbres.
Tous ces arbres, on les vend, ouais. Ils vont pas rester en place. Hein.
Ouais.
Là, on est sur le lot 2.
Et c'est quoi comme arbre là qu'on voit?
Alors là, c'est des poiriers. Nous, toujours pareil, l'idée c'est de faire la diversité à fond. Du coup, on fait tout ce qu'on arrive à faire, on le fait. Donc là, il y a des poiriers, des pêchers, des abricotiers, des pruniers, des cerisiers, des amandiers, des pommiers. On fait tout ce qu'on peut faire, on le fait. On a essayé les kakis, on n'y arrive pas, donc on a arrêté. Mais on fait le maximum de diversité, toujours le maximum de diversité. Et on me faisait la remarque là que c'est proche les arbres entre eux. Et en fait, ils sont à 20 cm les arbres les uns des autres. À 1m20 ou 1m50, ça dépend entre les rangs. Et cette distance-là, évidemment, ils n'ont aucun avenir de devenir gros. Mais en pépinière, ça leur permet, c'est de la syntropie, ça leur permet de... Ils se donnent tous de l'élan et ils font la course, en fait. C'est-à-dire que c'est suffisamment serré pour pousser bien, et tout le monde ensemble, mais pas trop pour rentrer en concurrence non plus. Donc tout ça, c'est pas nous qui l'avons... Hein ? Donc c'est pas nous qui l'avons inventé, hein, ces trucs-là, mais du coup ça marche très bien. On est parti sur 20 cm entre les arbres. Donc ils pourraient pas rester plus que 2 ans, ça serait beaucoup trop serré. Mais par contre, ça fait des arbres qui partent droit. Déjà, on n'a pas besoin de trop les mener. Et puis qui poussent tous ensemble. Et puis ça optimise la place à fond. Et entre les arbres, du coup, c'est paillé sur 60 cm de large, que en paillage organique. De la paille locale qu'on achète, pas bio, parce que la paille bio, on la laisse aux éleveurs bio, il n'y en a pas assez pour les éleveurs bio. Donc on laisse la paille bio aux éleveurs bio et on achète de la paille de l'année d'avant. Ça les arrange, ils mettent souvent leur paille sur les paillers. Elle est noire, ils savent pas quoi en faire, les agriculteurs. Là, c'est un gars qui est pas très énervé, qui est sympa comme tout. Il nous la garde et tous les ans, il nous livre la paille noire, là, la paille qu'eux, ils veulent pas. Et nous, ça nous arrange parce qu'elle commence à travailler. Et après, on a 60 cm d'herbe qu'on a laissé, de l'herbe qu'on tond. Donc c'est le sol naturel, ça permet de protéger le sol, ça permet de gérer l'hydrométrie sans problème. Et puis on n'a rien à faire, on a juste à passer la tondeuse de temps en temps. Là, le hasard de l'année fait que ça pousse, on était à la bourre, donc j'ai tout tondu. Mais sinon, on tond normalement un rang sur deux, tous les 15 jours à peu près. Donc il y a tout le temps un peu le bazar. Là, cette année, ça pousse beaucoup. Cette année, on s'est fait dépasser par les chardons, donc il a fallu remettre un coup de propre.
Il y a des maladies ?
Alors, il y a toutes les maladies du monde. Il y a la draft qui est passée, il y a tous les insectes ravageurs du monde, mais il n'y a rien qui domine, en fait. Il y a juste un, comme ça, de temps en temps, à droite, à gauche. On a eu un contrôle sanitaire, là, du coup, des arbres, et elle a dit « J'avais jamais vu tous les insectes ravageurs de ma vie, mais en fait, il y en a très peu. » Parce que c'est un équilibre, parce qu'il y a maximum 10 individus d'une seule variété. Donc ça peut pas, en fait, ils peuvent pas s'étendre. Si vous voyez, c'est les rangs, souvent, les rangs sont monospécifiques. Et encore, c'est même pas tous les rangs. Bon, on voit ce rang-là, ça là c'est des abricotiers, au début c'est des pruniers. C'est rare déjà qu'il y ait plus que 100 arbres de la même espèce, et c'est jamais plus que 10 de la même variété. Donc même quand il y a des maladies, c'est pas de la monoculture, donc ça peut pas s'en aller très vite. Et en fait, c'est des arbres qui sont très résilients. Et puis au contraire, ils grandissent avec la maladie. Et ça fait du coup le cinquième hiver cet hiver là qu'on va vendre des arbres. Et on a des super bons retours. Parce que les arbres, ils connaissent la vie, quoi. C'est des vrais.
Quand ils arrivent chez toi, ils ont quelle taille ou comment ça se passe? Et au bout de combien de temps tu les vends?
Alors du coup, il y a deux types d'arbres. Il y a les arbres de semis. Ça, c'est notre préféré, les brugnons de vigne, les pêchers de vigne, les cormiers, plein d'arbres comme ça, qu'on prend la graine locale, le plus local possible, et on la sème, et ça on s'en occupe depuis le début, et on les vend généralement à 1 an ou 2 ans, ceux-là. Et ensuite il y a les arbres greffés. Alors là, notre rêve, ça serait de prendre une graine, semer le porte-greffe, couper, prendre un greffon, greffer et vendre l'arbre. Ça, c'est l'objectif à terme, mais c'est deux métiers dans l'un, parce qu'il faut quand même produire les graines du porte-greffe et il faut prévoir ça en année N-2. Là. Donc, pour l'instant, on achète les porte-greffes. Donc, c'est des jeunes arbres qui font 20-30 cm de haut, là, qui sont un diamètre, ils font 7 mm de diamètre. On les plante en hiver, on les greffe et on les vend. Ils ont entre 9 et 18 mois. Et entre 9 et 22 mois, comme ça. Ça dépend à 1 an ou 2 ans, quoi. Un an de greffe ou 2 ans de greffe. Là devant, on a des. Et après, il y a deux types de greffes. Parce qu'on greffe. Là, ça va commencer de technique, je vais vous perdre.
Mais non.
On greffe en mars à l'anglaise. Donc, ça, c'est des greffes comme on a juste devant. Là, ça vous fait un. Ça fait. On voit bien le porte-greffe et un biseau et le greffon qui pousse. On voit bien là. Et derrière, on voit bien sur les, enfin moi je vois bien sur les abricotiers, c'est des greffes à l'écusson. Donc si la greffe à l'anglaise elle rate au printemps, on peut au mois d'août, ça va, enfin maintenant là, on va faire les premières dans pas longtemps. On peut greffer à l'écusson, c'est-à-dire qu'on prend juste un œil et on vient le greffer dessus. Ça se fait à cette époque-là et ça nous permet de faire une deuxième chance sur les mêmes porte-greffes. Et là, les abricotiers qui sont là, ils sont greffés à l'écusson. On voit que ça fait pas tout à fait la même tête que le greffon qui est là. Et on peut encore regreffer à l'anglaise en mars d'après. Donc généralement, avec nos trois chances, on finit par réussir à greffer tout. Sachant que pommier, poirier, prunier, on est à 98% de réussite. Hein. C'est vraiment après, il y a des trucs plus techniques. Quoi. Les abricotiers, c'est plus chiant. Les pêchers, ça dépend des variétés, c'est un peu plus technique. Les cerisiers, ça dépend des gelées tardives. Mais voilà.
Mais comment vous les vendez ?
On les vend en racines nues quand ils font au moins 1m20 de haut.
En direct ?
En direct, tout en direct, et que des gens qui habitent à moins d'une heure de la pépinière. Et ils sont tous réservés, c'est une petite production. L'objectif du coup avec nos lots de 1000 arbres, c'est de vendre 1000 arbres. On n'y est jamais venu encore, on est à 850 arbres. Pour l'instant, le revenu principal, c'est la pépinière de pot. C'est pas encore les arbres, parce que c'est long à mettre en place tout ça. Mais c'est en train de se construire doucement. Et jusqu'à maintenant, on sort le catalogue en septembre-octobre, et en 3 semaines, ils sont tous réservés. Donc on vend tout sur réservation et après on demande aux gens quand c'est que vous voulez planter et nous on arrache 24 heures avant, on les sort de la terre et on les donne en racines nues. Donc les gens les replantent.
Et vous vendez du coup à des particuliers, pas d'agriculteurs qui veulent faire de l'agroforesterie ou...
Alors on est fermé à rien du tout, on vend à des particuliers à la base et l'année dernière le hasard fait qu'il y a 2 agriculteurs qui ont planté en agroforesterie. Ouais, on a vendu à Charles la bière la 17 là qui est vers Sainte, vers Écura. Et il a planté 10 hectares d'agroforesterie, pas que nos arbres, mais il y avait quand même 185 arbres greffés de nous. On a fait ça en chantier participatif et c'est plutôt chouette. Et en plus, nous, ça nous fait presque un nouveau verger conservatoire où on sait où c'est, parce qu'il est bio, Charles, et du coup, on connaît que ces arbres là-bas, on pourra aller chercher les greffons. Mais c'est pas le même avec 1000 arbres, au final, l'agroforesterie, ça nous mangerait trop d'arbres. S'il y a un agriculteur qui veut, avec plaisir, mais on préfère diffuser. Ça peut pas s'agrandir hein, de toute façon. Donc après, s'il y a un agriculteur qui en veut 150, faut qu'il se dépêche à les commander, c'est tout. Mais on en fera un ou deux par an avec plaisir, mais pas plus quoi. L'objectif, c'est de diffuser de la biodiversité, diffuser de la résilience, diffuser du fruit, et puis que les gens prennent conscience de la diversité fruitière. C'est un truc qui nous tient à cœur, ça aussi. C'est que plein de gens nous répondent : un pommier, j'en ai déjà. Mais oui, mais les pommiers, ça donne sur 8 mois de l'année. Les pommiers, il y en a des acides, il y en a des mous, il y en a des durs, il y en a des croquants. Il y en a un milliard. Personne a tout déjà. Et nous non plus d'ailleurs. Aujourd'hui, nous, on a 200 arbres, parce qu'autour de la pépinière, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y en a qui sont un peu plus grands que les autres. Ça fait partie de nos pieds-mères. Ça se voit que c'est une jeune pépinière, parce qu'on n'a pas encore de gros arbres. Mais des arbres comme ça, on en a 200 en place, qu'on a greffés nous, de 150 variétés différentes. On n'a pas que ici, hein, il y a d'autres terrains. Et on a aussi des noisetiers, on a des amandiers, on a 15 variétés d'amandiers, on a des choses comme ça. Donc voilà, on travaille à faire pousser ces arbres, à devenir un peu verger conservatoire et à diffuser cette diversité qui tient la route et faire redécouvrir le goût du fruit aux gens. Quoi. Et puis la conservation et puis adieu la Pink Lady.
Et le traitement ?
Et alors, traitement, zéro traitement. Sur les plantes en pot, on met du purin d'ail pour les mouches du terreau parce que c'est pas beau, parce que ça fait des asticots uniquement pour ça. Pour les plantes, ça change rien. Et ici, dans la pépinière d'arbres, ça fait 5 ans qu'il y a des arbres, il n'y a jamais eu le moindre traitement, même pas savon noir, rien. On n'a jamais rien mis sur aucun arbre. Et on a eu une formation au mois de mars, c'était pas nous le formateur, c'était un arboriculteur, là, Benoît Piron, un très bon, un grand spécialiste. Et l'après-midi, c'était visite de la pépinière. Et puis, du coup, il nous parlait des carences en bord, des machins, des trucs, des contrôles de... Et il dit, bah oui, mais bah, du coup, qu'est-ce que c'est que tu mets du coup pour contrôler les ravageurs et machin ? Je dis, bah rien. Bon, bah voilà, il y croyait moyen, mais pourtant. En fait, c'est tellement petite échelle, puis vous voyez bien, c'est très diversifié. Ça va, un insecte, il s'y perd très vite, et on n'a jamais rien mis. Et on ne mettra jamais rien. On a déjà perdu 3 pommiers à la suite à cause des pucerons, mais c'est pas grave, on perd 3 pommiers à la suite, et puis bah, c'est la sélection, quoi. Et on n'a pas perdu toute la variété, on a perdu 3 individus. Donc ceux-là, non. Mais voilà, c'est comme ça que ça se fera, quoi.
Vous les laissez quand ils sont attaqués ?
Non, Non, on les enlève quand même. S'ils sont un peu attaqués, on les laisse. Parce que souvent, en plus, les ravageurs, ils s'occupent fort de lui et puis ils laissent tranquille les autres. Et s'ils commencent à être vraiment très malades et qu'ils risquent d'être vecteurs de maladies, après, ça peut être le vecteur, là, on l'enlève. Mais je le brûle jamais, par contre. Tout le monde dit, il faut brûler les arbres. Machin. Je le prends, je le coupe, je le mets de l'autre côté. Vous avez vu, au milieu de vos tentes, là, il y a un gros tas de branches.
Non,
vous, vous dormez à côté des arbres malades. Non, il n'y a pas que ça. Il y a tout ce qu'on taille, on met là-bas, mais on ne le taille pas. Du coup, on le brûle pas, on le garde. La matière. Nous, on croit vraiment à la diversité, à la nature hors du vide. Donc, si on essaie de créer le vide, on va le remplacer, la nature va le remplacer par autre chose. Si on laisse tout plein, il n'y a aucun problème, on ne sera jamais embêté. Si on avait un champ de monoculture de maïs, oui, on serait embêté, en effet.
Forcément. Pas de grâce pour le géotextile, dès que tu es aiguisé contre le projet servile. Je me souviens encore de ma première bassine. Elle était amosée, peuplée par les machines. Un palais de pelleteuses pour dévaster nos terres, détruire l'écosystème et nous rendre vénères. Mort aux bâches, mais aux bassines, vivent les enfants de Mosée et ceux de Sainte-Soline. Pas de grâce pour le géotextile, dès que t'es réguisé contre leur projet servile.
J'étais un crabe charme, mon destin des âmes, un crabe à ma porte, forme d'un cutter.
On taillade à la bâche d'un ouvrage illégal, sous les yeux des gendarmes qui pouvaient que dalle. Et mort aux bâches, mort aux bassines, vive les enfants de Mosée et ceux de Sainte-Soline. Pas de grâce pour le géotextile, dès que t'es aiguisé pour leur projet.
Paprika, comment on en est arrivé là ?
Eh bien écoute, ça a commencé donc fin mai. Au début, c'est un petit groupe de gens qui se connaissaient par des collectifs, etc., qui se sont rassemblés, qui ont répondu en fait à l'appel des soulèvements de la terre et qui ont appelé à faire ces convois, vélo, à pied, en voiture pour ceux qui viennent de très loin, pour aller au village de l'eau. Et donc on commençait à organiser ça, qui ont diffusé sur les réseaux sociaux. Il y a eu une première réunion, puis une deuxième avec un peu plus de monde.
Attends, tu vas un peu trop vite là. Quand tu dis on fait une première réunion, c'est quoi les relations entre vous ? Comment vous arrivez à trouver cette énergie ? Comment vous vous mettez d'accord ? Est-ce que vous vous connaissiez ?
Alors, moi je suis arrivé à la deuxième réunion, j'étais pas là dès la première. Est-ce qu'on se connaissait ? Non. Tout le monde ne connaissait pas tout le monde. Alors, il y a des gens qui se connaissaient par des groupes militants, des collectifs. Mais il y a des gens, moi par exemple, tu vois, je suis arrivé comme ça de nulle part. J'ai juste vu passer l'information et je me suis dit, c'est une super idée. J'ai envie d'aller au village de l'eau. Il y a ce convoi qui se fait. Enfin, je trouve que c'est une super forme de mobilisation. Donc, non, tout le monde ne connaît pas tout le monde. Et en fait, quand tu rentres dans la réunion, tu écoutes un peu les récaps de ce qui s'est passé les fois d'avant, qu'est-ce qui a été décidé. Et puis, petit à petit, tu t'investis, tu te dis, sur tel point, moi j'ai telle idée qui peut être sympa. Et en fait, petit à petit, les tâches se spécialisent. Chacun prend un truc. Il y en a qui vont s'occuper plus de la logistique, tout ce qui est alimentation. D'autres qui s'occupent plus du parcours. D'autres qui vont s'occuper, je sais pas moi, de créer un formulaire d'inscription, etc. Et donc, ça finit par faire un petit groupe au bout de 3-4 réunions qui revient toutes les semaines.
Alors là, on est à Bordeaux. On est avec des militants de Bordeaux. Et c'est quelle période ? C'était quel mois ?
Alors les premières réunions, ça devait être début mi-mai et ça s'est surtout accentué entre la fin mai et sur juin. Voilà, en juin, on a eu une réunion toutes les semaines, il me semble. On a eu un repérage aussi qui a été fait un week-end, un repérage de tous les endroits qui allaient nous accueillir, toutes les personnes qui nous accueillaient, qu'on a été rencontrées. C'est important aussi pour nous de les rencontrer de visu avant de débarquer chez elles. Et donc voilà, une réunion toutes les semaines avec chaque semaine on avance, on a eu des nouvelles personnes qui arrivaient à chaque fois, mais on avait un petit noyau dur qui revenait, qui était là tout le temps et qui avait ses petites tâches, et on arrive à ça aujourd'hui quoi.
Alors ça c'est extraordinaire, mais est-ce qu'à un moment donné toi t'as eu des craintes, il y a eu des moments où tu t'es dit on va pas y arriver ou on va y arriver mais ça va être difficile?
Alors moi, c'est, enfin, dans le groupe, personne n'avait vraiment d'expérience d'organisation de ce genre d'événement. Il y a eu à quelques réunions une ou deux personnes qui avaient déjà participé, mais qui n'avaient pas été dans l'organisation. Donc, pour tout le monde, je crois qu'on est un peu parti de zéro. Et c'est pour ça qu'aussi on est assez content d'avoir un convoi qui soit pas non plus 150 personnes, qui soit à taille humaine. Donc, je pense que tout le monde a eu des doutes à un moment, moi aussi, hein, j'ai eu des doutes. Des fois, on se dit, tel point, c'est quand même très compliqué à gérer. Comment on va gérer ça? Est-ce que c'est bien géré? Est-ce que ça n'est pas une quantité de travail énorme? Et petit à petit, au fur et à mesure des réunions, des discussions, on se rend compte que, ben, en fait, ça va le faire, quoi. Ça va passer. On aura peut-être des petits couacs, mais c'est normal, c'est comme ça. Mais en fait, tout le monde est investi, tout le monde est déterminé à ce que ça se passe bien. Et on, voilà, tout le monde participe, et donc on a une énergie qui fait que ça va bien se passer. Et bah, c'est ce qu'on voit là. On arrive demain et on n'a eu aucun problème. On n'a vraiment eu aucun problème.
Alors, on n'a pas eu de problème, mais parce que vous avez eu un beau travail. Et comment vous avez réussi à trouver ces hôtes, ces gens de la Confédération Paysanne qui nous ont accueillis, qui nous ont aidés, qui nous ont nourris, qui nous ont logés?
Alors, ça, c'est vraiment le Y qui s'est occupé de ça. C'est un des premiers trucs qu'on a fait, d'ailleurs. Hein, pour fixer le parcours et l'itinéraire, on a commencé par chercher des personnes chez qui loger. Alors, comment il a fait ça? De ce que je me rappelle, il a tout simplement contacté... On a contacté les mairies des villes potentiellement étapes, dans un premier temps, pour essayer de voir est-ce qu'ils ne connaissaient pas des gens qui avaient un champ, etc. On avait aussi regardé éventuellement un camping ou deux, se dire bon, pourquoi pas avoir un camping avec une douche à un moment. Bon, finalement, ça ne s'est pas fait. Et sur toutes les personnes de la Confédération Paysanne, en fait, on a fini par contacter la Confédération Paysanne, leur expliquer notre projet, notre convoi. Et de discussion en discussion, on nous a dit « Ah, non, mais moi, je peux pas. Par contre, je connais telle personne qui habite à tel endroit. Lui, il sera peut-être. » Donc, on l'a contacté. Il nous a dit « Ah, ben moi, j'ai un jardin, mais que pour 20 personnes. Par contre, je connais quelqu'un. » Et voilà. Et de réseau en réseau, on est arrivé. En fait, on a fini par trouver une personne qui nous a dispatché partout, surtout de tout le parcours. Et
alors, toi, à ton endroit, à un moment donné, parce que je t'ai vu en réunion... Et tu as fait tout un travail pour savoir où est-ce qu'on pouvait acheter à manger. Comment tu t'es débrouillé?
Ouais, voilà. Alors moi, j'ai pris ce rôle de la logistique alimentaire. Personne ne m'a dit « occupe-toi de ça ». C'est moi qui me suis mis là-dedans petit à petit. Alors, donc j'avais un travail, entre guillemets, en deux temps. Un premier temps, c'était... on a décidé d'être en autonomie sur les repas. C'est-à-dire que tout le monde gère son repas. Alors évidemment... on est dans le partage, mais on ne prévoit pas une cantine qui se déplace avec nous et qui ferait à manger pour tout le monde. Donc il fallait trouver sur le parcours des endroits pour se ravitailler, avec la problématique qu'on passait pas toujours par des endroits très peuplés ou des grandes villes, ou même des petites villes, qu'il y avait un jour férié sur la route, etc. Donc on a fait une petite cartographie des villes intéressantes, parce qu'elles avaient des supermarchés, des biocoop, des pharmacies, même des décathlons des fois, au cas où, on sait jamais. Donc ça, c'était le premier point, et on a fini par faire une petite liste pour chaque jour des points qui étaient, des endroits qui étaient intéressants par lesquels passer. Et donc le deuxième point après, ça a été de prendre contact, parce qu'on a eu la chance sur ce convoi de rencontrer des agriculteurs et agricultrices qui ont une production évidemment, et qui étaient très contents et contentes à l'idée de nous partager leurs produits, de nous vendre leurs produits, ou même de demander à leurs amis, de dire « Ah ben voilà, j'ai le convoi de l'eau qui passe, ils sont à la recherche de légumes, est-ce que c'est possible que je leur donne ton contact ?» Et en fait, comme ça, on a fini par avoir des commandes. En fait, on a pu passer des commandes de pain, de légumes, et puis ce soir, on a ce super repas. Donc ça a été aussi un petit travail de logistique, moi, de mon côté. J'ai été en contact avec les personnes qui nous vendaient des produits pour préparer ces commandes.
Alors, Paprika, tu fais partie de l'organisation et du convoi de l'eau qui va jusqu'à Mel pour des journées... pour le village de l'eau, pour des journées d'action du 17 au 20 juillet. Qu'est-ce que ça t'a fait ? Du 16 au 21. Du 16 au 21, voilà. Qu'est-ce que ça t'a fait, toi ?
Moi, c'était... Alors, c'est ma première vraie expérience... Enfin, vraie. Non, c'est ma première grosse expérience militante. J'ai déjà fait d'autres mobilisations, mais j'y suis allé sur une journée et j'ai fait que participer. Et d'ailleurs, je dois quand même saluer là-dessus. Autre manifestation que j'ai fait, c'était celle contre la 69 en octobre dernier, et qui avait une organisation incroyable. Et arrivé sur place, en fait, tous les doutes, toutes les incertitudes qu'on a quand on connaît pas du tout le milieu, s'estompent tout de suite, parce qu'on se dit, mais ces gens, c'était tellement bien organisé.